Babel. Alors, donc, Sem, Cam et Japhet ont des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il y a 8 personnes sur Terre et qu'on va se retrouver à des milliers? Donc, ils se sont mariés entre frères et sœurs, les enfants de Sem, Cam et Japhet? Oui. Ils se sont mariés entre frères et sœurs, ils sont mariés entre cousins, ils sont mariés entre issus de cousins issus de Germains. Et ils ont peuplé la Terre. Mais ils restaient au même endroit, ils étaient encore entre le Tigre et l'Euphrate. Et ils se multipliaient, ils se multipliaient, ils se multipliaient. Et ils avaient la même langue. Alors, reste à savoir quelle était cette langue. On ne sait pas. Est-ce que c'était l'hébreu? Est-ce que c'était une autre langue? Est-ce que c'était, comment dire, la langue indo-européenne, le sanskrit? Ils avaient leur langue, elle était unique. C'était celle d'Adam et Ève. Et donc, ils se multiplient et ils recommencent à pécher. Dans la franc-maçonnerie, d'ailleurs, quand vous passez du grade d'apprenti à compagnon, on vous dit au creux de l'oreille « tubule Cain ». Vous voyez? C'est un mot de passe parce que vous en connaissez plus sur la taille de la pierre. Quelle blague, le compagnonnage, la franc-maçonnerie opérative n'a jamais eu ces rites kabbalistiques et sataniques. Et donc ça a fait polémique quand même, hein, parmi des francs-maçons plus contemporains, un peu moins niais que les bourgeois et les nobles qui étaient tout contents d'avoir des degrés au XIXe siècle ou XVIIIe siècle. Eh bien, ils ont changé, ils ont mis un autre mot de passe pour passer le premier degré des loges bleues. Apprenti, compagnon, maître, pour être ensuite vénérable. Tubule Cain. C'est quoi Tubule Cain? Mais c'est le prénom pourri d'un pêcheur des premiers siècles de l'humanité. Donc c'est pas, je sais pas, c'est en quoi ça fait grandir. Hein. À part l'adoration de Lucifer. Bon, petit passage qui me vaudra la prison ici. 5 à 7 ans. Donc Babel. Dieu avait dit aussi à Noé et à ses fils, multipliez-vous, remplissez la terre. Or, tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une plaine. Ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Alors comme à l'époque, ils n'étaient pas quand même tout à fait, dans leur découverte architecturale, n'était pas parfaite, donc ils faisaient des tours dont les bases étaient énormes, et d'étage en étage, c'était plus petit, comme ça ils étaient sûrs que ça ne s'écroule pas. Parce que pour faire une tour, comment dire, verticale, il faut être sûr des forces, vous voyez. Les tours les plus anciennes sont des tours carrées. Les tours rondes sont plus modernes. On ose tourner. Mais on a peur que ça s'écroule. Donc la tour de Babel est une tour en pyramide. Faisons-nous une renommée et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Et Dieu dit, voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue. Confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Et alors, ceux qui essayent de détourner ces passages qui sont très anciens et qui ont été recueillis par Moïse, disent, ah, Dieu a eu peur de l'homme. Oh non, il a vraiment pas peur, hein. Dieu, c'est comme le chat, et vous avez la souris qui dit, tiens, tiens, je vais te casser la gueule. Eh bien, voyez-vous, si vous voulez, ce récit manifeste la haine et la méchanceté de l'homme. Parce que derrière cette tour de Babel, c'est aussi les sacrifices humains, c'est aussi la cruauté, c'est aussi le pouvoir et le péché. Et Dieu veut arrêter ça. Non pas que l'homme va parvenir à... Vous savez que pour le centenaire de la Révolution française, la franc-maçonnerie française et américaine se sont fait des cadeaux. Vous avez comment dire, vous avez la Statue de la Liberté, hein, qui est la bête de la mer, avec ses 7 cornes, hein. Corne en latin, ça veut dire 7 pouvoirs. Et vous avez la statue de la liberté qui a sept cornes au sens, comment dire, symbolique du terme. Mais ça correspond à l'Apocalypse. Hein. C'est la bête de la mer. Ah, vous êtes contre même la statue de la liberté? Mais oui. Mais oui. Je la mériterais, ma prison. Hein? Intégriste, machin. Oui. Enfin, voilà. Et donc, mais pour le centenaire de la Révolution française, on a fait la Tour Eiffel. Et comment dire, celui qui l'a conçu, qui s'appelait, il y a Eiffel et puis Gustave Eiffel et puis l'autre, Bartholdi. Non, c'est pas Bartholdi.
C'est la liberté.
C'est la liberté. En tout cas, c'est la tour de Babel. Pour le centenaire de comment dire, de la révolution contre la religion catholique en France, ils font la tour de Babel. Vous allez dire, ah, vous allez être comme le brave ancien président de Radio Courtoisie, vous voulez qu'on rase la tour Eiffel? Mais non. Maintenant, elle est là, c'est une belle construction de l'intelligence humaine. Mais l'intention de la tour Eiffel, c'est la tour de Babel. Eh bien, Dieu lui a pas permis que la tour de Babel historique en Irak soit terminée. Et il va faire un miracle absolument extraordinaire. Parce qu'il est bien évident que comme la nature humaine est une seule souche, on avait un seul langage. Et il n'est pas normal qu'on ait des langages aussi différents les uns les autres. C'est bien donc une intervention divine. Parce que quand des peuples ont la même langue, même avec la fantaisie, les accents, les siècles qui passent, on sait quelle est la langue d'origine sur des peuples différents. De manière impressionnante, hein. Les langues qu'on dit indo-européennes, vous avez un mot qu'on retrouve partout. Et dans 10 ou 12 langues existantes. C'est très impressionnant. Étudier le sanskrit, c'est passionnant. Vraiment passionnant. Mais vous avez des langues qui sont pas du tout le sanskrit. Eh bien, l'origine, c'est la tour de Babel. Dieu les dispersa de là sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Ça doit être impressionnant de ne plus pouvoir se parler. Ainsi la nomma-t-on Babel, car c'est là que Dieu confondit leur langage. Hein, Babel, c'est la confusion. Pourquoi les hommes voulaient-ils bâtir la tour et la ville de Babel? Pour insulter Dieu. Le monstre abject insulte les cieux, n'est-ce pas? C'est le veau d'or. Hein, c'est Méphistophélès dans Faust. Voyez. Le monstre abject insulte aux cieux. Voyez. Comment Dieu les empêcha-t-il de réaliser leur dessein en confondant leur langue? Impressionnant. Que signifie le mot Babel? Confusion. Comment les premiers récits de la Bible manifestent-ils la puissance, la bonté et la miséricorde de Dieu? Eh bien là, on reprend hein, le déluge. Oh mais qu'est-ce qu'il est gentil de noyer tout le monde? Oui, mais c'est pour arrêter le péché. Voilà. Alors donc, on a eu le droit de bombarder des villes, on a eu le droit d'envoyer des bombes nucléaires sur des civils. Ben non, ça c'est dans le droit de la guerre, ça se discutera, même si le droit des vainqueurs fait qu'on n'en parle pas trop. Mais on n'a pas le droit de faire des crimes de guerre, on n'a pas le droit de raser des villes entières. Hein. Voyez. Même si c'est pour arrêter, comment dire, un ennemi féroce comme les nazis. Enfin, c'est fait. Hein. Mais l'homme est dur. Hein. Dieu résiste aux orgueilleux et il donne sa grâce aux humbles. Donc ça, cela nous introduit parfaitement à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est vraiment la religion adamique. Abraham, c'est cette capacité de l'homme à avoir gardé dans la grâce et l'aide de Dieu la vraie religion. Vous avez eu le déluge, vous avez eu Babel et vous avez Abraham, hein, il s'appelle encore Abraham, qui est irakien. Et à l'époque, donc ceux qui avaient fait la tour de Babel Eux, ils mettaient des bébés dans les fondations des maisons. Et ça, ce sont des coutumes qui ont perduré dans beaucoup de peuples, hein. Mais du temps d'Abraham, n'est-ce pas, et de Ur en Chaldée, ils mettaient des bébés pour porter chance. Vous voyez? Très certainement, dès cette époque-là, vous avez le culte de Baal. Hein, le culte de Baal, c'est une statue en bronze qui représente une sorte de taureau ou une horreur, une sorte de minotaure. Et puis vous jetez des personnes vivantes dans la statue qui est une cheminée, avec un feu à l'intérieur de la statue. Et même certaines statues de Baal avaient des bras mécaniques. On mettait les bébés sur les bras et on tirait les bras et si vous voulez, ah, la statue avalait le sacrifice humain. Et donc, Abraham, lui, déteste ça. Il est fidèle à la tradition adamique, il prie le Dieu unique. Mais vous vous rendez bien compte que quand on arrive dans des atrocités pareilles, vous comprenez le déluge, vous comprenez Babel. Dieu est dur parce que l'humanité est très pécheresse à l'époque. Très dure. Imaginez ce qui va nous arriver, nous qui tuons au moins 220 000 bébés, tout petits bébés, hein, c'est, je dis exprès bébés pour pas dire embryons, par an en France. Avec aucune possibilité d'apaiser la conscience des femmes et des hommes qui ont fait ces avortements. Mais au contraire, en leur disant, mais c'est très bien ce que vous avez fait, faites-en un autre. Et là, la miséricorde, le pardon, dans la confession pour les catholiques, et pour ceux qui ont fait ça, je ne sais pas, dans l'islam ou autre, ils sont pas fiers, hein. Et ils prient Dieu de leur pardonner d'avoir eu peur d'avoir cet enfant. Eh bien, ce Dieu d'amour, il, si vous voulez, il s'adapte à la cruauté et à la dureté des êtres humains. Et Abraham, lui, est honnête, juste. Alors, il y a une tradition orale qui dit qu'Abraham aurait été détesté par son honnêteté, sa justice, vu qu'il y avait aussi la débauche, bien sûr, parce que c'est souvent, il y a aussi la débauche, hein, dans le péché. Et on l'aurait mis dans un bûcher, comme les enfants, les Hébreux de la fournaise. C'est ce qui est dit. Et alors qu'on l'avait jeté dans le feu, il n'a pas mort. Et le feu l'a entouré, et lui n'a pas été brûlé. Et donc, Abraham est un saint, et Dieu lui dit, maintenant, Dieu va lui apparaître. Sous quelle forme? À un moment donné, il lui apparaît sous forme de trois hommes, trois anges. Mais c'est quand il est déjà en Terre Sainte. Mais là, il lui parle, donc de manière miraculeuse et prophétique. Il dit à Abraham, sors de ta famille, sors de ton pays. Je ferai de toi celui qui transmettra la foi à des peuples entiers. Tous ceux qui viendront de toi garderont la foi d'Adam. C'est moi qui brode, hein. Vous garderez la vraie foi en moi, Créateur, et non pas dans le volcan ou de la motte de terre, ou la fertilité, la pseudo-fertilité, parce que les peuples péruviens, lorsqu'il n'y avait pas assez de pluie ou autre, la déesse Terre, il lui rendait quelques bébés pour, je sais pas, pour lui faire plaisir, et à Pachamama, on faisait des sacrifices. Hein? Alors c'était très original, hein? Comment dire, c'était comme chez les Incas. Vous avez un dessin animé très amusant, la Pachamama. Vous avez un village péruvien qui est attaqué par les méchants Incas et qui vole la statuette de la Pachamama. La Pachamama, c'est la déesse de la fertilité, hein. C'est, comment dire, en Afrique, elle a de quoi nourrir l'enfant, hein. Comment ça s'appelle? Non, c'est les figurines de femmes très fertiles.
Les déesses mères.
Non, oui, non, il y a un terme particulier. Ce sont des statuettes où la femme a une poitrine extraordinaire, des hanches, mais
plusieurs seins.
Voilà, ou plusieurs seins pour certains. les Vénus. Voilà, les Vénus, voyez. Mais vous avez des statuettes comme ça qu'on trouve dans différents peuples. Eh bien, voyez-vous, on faisait des sacrifices, on arrachait le cœur de l'enfant ou de l'adulte. Mais pour les enfants, ils mettaient un petit lama à côté. D'ailleurs, dans le dessin animé, il y a un petit lama qui, avec le petit garçon et la petite fille, qui vont chercher la statue, qui donne plein de bénédictions au village. Mais ils ont oublié dans le petit dessin animé de faire quelques petits sacrifices humains où à un moment donné on prend leurs frères, leurs sœurs et on leur pète le sternum, on arrache le cœur et on les enterre à côté avec un petit lama. Voyez, pour que sur le dos du petit lama, après la mort, ils aillent au paradis. Voyez. Enfin, c'est, si vous voulez, on peut se moquer de ces religions qui tombent dans la superstition et la cruauté. Mais voyez-vous, ils croyaient en une vie après la mort, ils avaient peur des divinités et ils leur faisaient des offrandes. Si vous voulez, c'était des religions superstitieuses. Mais c'est l'ombre de la mort, hein. Les missionnaires qui sont arrivés leur ont dit, on arrête tout ça. Dieu est bon, il faut pas avoir peur de lui à ce point-là. Et venez expliquer que les hommes étaient cruels. Il fallait arrêter cette cruauté. D'où le déluge. Dieu donna... Alors là, ils vont un peu vite. Hein. Ah non, voilà. Pardon. Donc, page 12. Des siècles et des siècles s'écoulèrent depuis les origines du monde jusqu'au temps d'Abraham. Avec lui commence l'histoire de la famille que Dieu s'est choisie pour en faire un jour son peuple. Dieu appelle Abraham. Dieu dit à Abraham... Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Eh bien, c'est accompli, figurez-vous. Le peuple juif a gardé la foi d'Adam, grâce à Abraham, qui était descendant d'Héber, d'où le peuple hébreu. Et nous avons tous reçu la foi adamique conservée à travers les siècles par Noé, par Abraham. Et nous voici, de tous les peuples différents, européens, africains, asiatiques, et bien voilà. Donc, quand vous lisez ça, et que vous découvrez des genèses de 400 ans avant Jésus-Christ, vous vous dites, mais c'est quand même incroyable. Dans les sables on a découvert des bibles très anciennes, la Bible qui est sortie du sable, un Qumran. Vous dites, mais alors ça n'a pas été écrit récemment, parce que c'est quand même culotté de dire ma religion va se diffuser dans tout le monde entier. Il faut avoir ce culot quand même. Mais c'est vrai. Vous voyez, moi, je suis latin par mon père, peut-être grec par ma grand-mère maternelle, qui était une Philippie, en Corse. Il y a eu des colonies grecques, latin, grec, celte par norvégien par mon grand-père normand de la Haute Normandie, je peux vous assurer. Il était blond aux yeux bleus, hein, mais mon père, il a tout pris, voilà. Je suis et donc si j'ai eu 10 cm de plus hein, par rapport au Corse. Ouais. Et donc celte par les Bretons de ma grand-mère maternelle et j'ai la foi d'Abraham. Donc c'est accompli. Mais quand vous avez un vieux texte religieux qui dit que cette religion-là va se diffuser dans le monde entier, c'est quand même incroyable. Et ça s'est accompli. Donc c'est la vraie religion. Il y a pas, c'est pas par hasard que vous avez des gens, des baptisés qui sont au fin fond de l'Indonésie ou au fin fond du Japon. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Abraham partit comme Dieu le lui avait dit. Il prit sa femme Sarah et son neveu Lot. Abraham traversa le pays de Canaan jusqu'au lieu saint de Sichem. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Dieu apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. On est en Palestine, ça vous dit quelque chose? Avec les descendants de Canaan, les Cananéens, et ils étaient sur la bande de terre, sur la côte, et ils s'appelaient les Philistins. Et parmi les cinq grandes villes des Philistins, il y avait Gaza. Ça dit quelque chose, Gaza, non? Hein? Voilà. Et bien sur la bande de Gaza, c'est pas des Sémites, hein, c'est des Philistins. Ils sont là depuis des siècles, hein. Et ils s'accrochent, hein, voilà. Et comment dire, quand Abraham est arrivé, il y a eu des petits échauffourées entre eux. Mais là, à l'époque, c'était des idolâtres qui faisaient des sacrifices humains. Les Philistins. Oui. Et donc, lui, il arrive dans le village de Mambré, enfin aux chênes de Mambré, près de la ville de Salem. Ça dit quelque chose, Salem? Vous voyez? Et donc, et il achète un lopin de terre, parce que Dieu lui dit, c'est là que toute ta descendance va s'étendre. Or, s'il avait dit ça aux Jébuséens, hein, ceux de la ville de Salem, ils auraient fait une drôle de tête. S'il avait dit aux Philistins, mais vous savez, un jour, j'aurai votre territoire. Il dit, non. Vous voyez? Et, eh bien, Dieu lui promet du Nil jusqu'à l'Euphrate. Et dans le drapeau israélien actuellement, vous avez deux bandes bleues. C'est les promesses données à Abraham. Mais si vous voulez, les conquêtes pour que ce peuple saint puisse se développer jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur, ils ont eu certains territoires dans l'accomplissement de cette promesse territoriale, mais qui est une promesse spirituelle avant d'être une promesse territoriale. Ils sont pas actuellement, les descendants d'Abraham ne sont pas censés vouloir faire la guerre pour obtenir un territoire du Nil jusqu'à l'Euphrate parce que ça va être terrible. Ils vont devoir faire la guerre à la Syrie, à l'Irak, par exemple. Vous voyez? Mais c'est pas en ce moment, je pense pas. En ce moment, c'est la paix universelle. Mais voyez-vous, il y a quelque chose de cela et qui est décalé par rapport à la promesse faite à Abraham. Parce que la promesse qui est faite à Abraham de cette terre, c'est pour qu'il garde la foi et se préserve de l'idolâtrie et des sacrifices humains. Alors vous avez des gens justement qui disent « le peuple juif était méchant, ils ont conquis des villes, ils ont fait des anathèmes, plus tard, hein, mais c'était des peuples que Dieu leur avait livrés parce que c'était des peuples extrêmement cruels. » Qui tuaient leurs enfants, qui abreuvaient la terre du sang de leurs fils et de leurs filles, comme dit le psaume. Voyez. Donc là, le peuple hébreu avait raison de s'installer. Il avait le droit de s'installer. Voyez. Alors, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham y bâtit un autel à Dieu. Hein. Actuellement, c'est l'esplanade des mosquées, au même endroit, hein, avec le rocher... d'Abraham, et comment dire, et la mosquée du Dôme, donc là, grosso modo, hein, c'est à 500 mètres près. Et il passa de là dans la montagne et il y dressa sa tente. Abraham était très riche en troupeaux, il avait 300 bergers, hein, en argent et en or, parce qu'il vendait, il faisait du commerce avec ses troupeaux. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail. Le pays ne suffisait pas à leur installation commune. Il y eut une dispute entre les pâtres, c'est joli, hein, les bergers des troupeaux d'Abraham et ceux des troupeaux de Lot. Aussi Abraham dit à Lot qu'il n'y a pas de discorde entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens, car nous sommes frères. N'oubliez pas que le mot cousin n'existe pas en Orient. C'est la raison pour laquelle Jésus a eu des frères et sœurs. Non, c'est ses cousins. Hein, dans l'évangile, on ne va pas utiliser le mot cousin. Et en Afrique, actuellement, vous avez encore cette tradition humaine qui fait que les enfants sont le fruit commun des familles Et donc, quand la maman est prise, c'est sa sœur qui prend les enfants, c'est sa tante et tout ça. Il n'y a ni tante, ni oncle, ni... on est tous frères et sœurs. Et c'est maman et papa, hein, quasiment. Hein, le terme est vraiment... la famille dans sa force et sa solidarité aussi. Aussi Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas de discorde entre toi et moi. Sépare-toi de moi. C'est-à-dire, va occuper une terre un peu plus éloignée. Voyez-vous, c'est le droit de propriété. La Bible n'est pas communiste, Dieu n'est pas communiste. Quand vous avez le fruit de votre travail, vous l'avez. Ensuite, vous devez vous occuper des pauvres. Et vous devez vous occuper de vos employés. Et vous devez donner le bon salaire de leur journée de travail. Mais là, justement, on occupe des territoires différents. Et à l'époque, les Cananéens n'occupaient pas tout. Donc, les villes cananéennes regardaient ces Irakiens, ces Hébreux, hein, qui arrivaient et qui occupaient des territoires. Mais ils étaient encore vierges, donc ils pouvaient prendre des lopins de terre, ou ils les achetaient, ou ils les occupaient quand c'était à tout le monde. Si tu prends la gauche, j'irai à droite, et si tu prends la droite, j'irai à gauche. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Ça veut dire quelque chose, peut-être la Jordanie, non, peut-être, non. Il dressa ses tentes jusqu'à la ville de Sodome. Ça veut dire quelque chose, non, aussi, bon. Abraham s'établit au pays de Canaan. Et lui, il s'est mis du côté des, de peuples plus, plus à l'est. Dieu dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, à nouveau une deuxième fois, lève les yeux et regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Abraham alla établir ses tentes à Hébron. Ça vous dit quelque chose, Hébron? Vous savez, c'est là qu'il a enterré, je crois, je sais plus. Abraham et Sarah. Hein, donc ils se foutent dessus parce que les Cananéens, entre-temps, sont devenus musulmans. Donc ils sont retournés à la foi adamique. Ils sont plus idolâtres, ils balancent plus des bébés dans les fossés. Et donc, eux, ils revendiquent Abraham aussi. C'est bête, ils seraient restés idolâtres, on pourrait dire non, ils sont bibliques. Alors du coup, ils se foutent dessus. Voilà. Et là, il érigea un autel à Dieu. Vous voyez. Et donc, cette promesse d'un territoire, elle est liée à la vie spirituelle, elle n'est pas liée à une histoire perpétuelle. Vous allez me dire, alors vous êtes contre la création de l'État d'Israël en 48? Mais maintenant, c'est un fait. Mais quand Théodore Herzl, grand sioniste, avait demandé à Saint-Pédiste d'encourager la recréation d'un État, juif, pour que les juifs persécutés, mal aimés, autres, puissent avoir un lieu de paix et un lieu qui appartenait à leurs ancêtres, Saint-Pédiste a répondu à Théodore Herzl, c'est ce qu'on dit, mais si vous voulez, c'est pas un droit absolu que vous avez sur cette terre. C'est pas nécessaire que vous soyez sur cette terre. Mais toutefois, si vous vous faites baptiser, moi j'enverrai des prêtres pour vous baptiser et vous aurez plus un peu plus droit à cette terre. Voilà. Mais si vous voulez, soyez un peu plus fidèle à votre Messie. Jésus, votre Messie, juif, totalement juif, Jésus. Et là, vous avez Théodore Herzl qui était sioniste, pas vraiment religieux. Là, il est parti un peu déçu. Oui. Mais Saint-Pédis, lui, il parlait religion, il parlait salut, il parlait... et en plus, il fallait prendre un morceau de terre au milieu des Palestiniens qui avaient déjà leur terre. On aurait pu. Il y avait des étendues qui étaient très très peu occupées. Voilà. Abraham sauve Lot. Des rois vinrent piller Sodome et Gomorre, hein, des rois du Nord. Sodome et Gomorre étaient deux villes assez prospères, tellement prospères qu'à la fin ils s'ennuyaient comme des rats morts. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben tiens, j'en ai assez d'être avec ma femme, tiens, je vais essayer avec mon copain. Oh ben ça marche. Eh bien d'autres, ils pouvaient pas pour l'an, et à la fin c'était vraiment les orgies. C'était des villes de dingue. Hein. Et comment dire, Lot s'était installé à Sodome et Gomorre. Là, vous avez ces deux villes qui sont attaquées par des rois du Nord. Un rescapé vient informer Abraham que Lot a été fait prisonnier avec d'autres habitants de Sodome et Gomorre. Quand il apprit que son parent était emmené captif, il leva ses partisans. Ses bergers peuvent prendre des épées. Hein, et poursuivit ses ennemis, donc c'était des petits rois. Hein, parce qu'avec 300 bergers, il a vaincu les armées de ces rois du Nord qui avaient attaqué des villes du Sud. Donc c'était pas des grandes batailles non plus. Hein. Il les battit. Il délivra son neveu Lot et reprit tous ses biens. Quand il est reparti de chez lui, à côté de Salem, il est passé et il y avait un prêtre là-bas qui était le roi de la ville et qui était aussi le conducteur de la prière. Il était le prêtre de la ville. Il s'appelait roi de paix. Melchisédek. Quand Abraham revint, Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin auprès d'Abraham en le remerciant d'avoir fait la guerre à ses rois du Nord qui étaient très cruels et qui n'arrêtaient pas de faire des razzias. Et comme lui était un saint, sa ville ne faisait pas de guerre. Et alors, il prononça cette bénédiction parce qu'il était prêtre de la religion adamique. Il prononça cette bénédiction, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui créa le ciel et la terre. Hein, » Non pas les fleuves, les crocodiles, les singes, les forêts, la planète ou Pachamama. Oui. C'est le Dieu créateur tout-puissant, séparé de la matière et qui crée. Oui. C'est pas la déesse mère, c'est pas le limon de la terre qui nous a formés. C'est Dieu qui a fait notre être, notre corps, à partir de la matière. Mais il a insufflé un esprit comme ont les anges. Donc notre maman, c'est pas la planète Terre. Vous voyez. Là, je peux pas couper, j'aurais des choses vulgaires à vous dire. Donc, il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui créa le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout le butin. 10% de ce qu'il avait pris sur ses rois du Nord, il le donne à Melchisédek. Et Melchisédek, son offrande, c'était pas des animaux. Ni des vaches, ni des taureaux, ni même des agneaux. Il offrait du pain et du vin. Ah, c'était pacifique, hein. Eh bien, dans la messe, vous avez Abel le juste, Abraham, notre père Abraham, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Notre père Abraham. On comprend que des juifs soient jaloux. Non, c'est notre papa. Mais non, nous, c'est notre papa. Alors, vous voyez, vous avez des émissions, les enfants d'Abraham. Vous avez le prêtre, le rabbin, le prêtre et l'imam. Vous voyez. Il va falloir qu'on se mette d'accord. Est-ce que Jésus était un simple prophète? Ou alors est-ce qu'il était le Messie, mais plus que le Messie, mais le Fils de Dieu? Et là, il n'y a plus trois religions. Il n'y en a qu'une seule. Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Et là, les Juifs disent à Jésus, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. Abraham, attention, hein, c'est 1700 ans avant Jésus-Christ. Ramasser, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Yahvé, en plus. Donc ils prennent des pierres, et là Jésus leur dit, mais pour quel péché allez-vous me lapider? Mais pas un péché précis, c'est le péché. Étant homme, tu te dis Dieu. Oui, mais David n'a-t-il pas dit, inspiré, vous êtes des dieux? C'est-à-dire que dans un psaume de David, Dieu dit aux hommes, Vous êtes de mon, comment dire, vous êtes de moi, vous êtes mes enfants. Je vais vous diviniser, pas totalement et parfaitement, on ne pourra jamais être Dieu, mais on sera rempli de la vie divine, on sera rempli de comment dire, d'une connaissance de Dieu qui va nous épanouir spirituellement de manière extraordinaire dans la vie éternelle. Mais on n'est pas divinisé au sens propre, on ne va pas tous devenir des dieux. Voyez, attention aux mots. Voyez. Mais c'est Saint Pierre parle de cette présence de l'amour de Dieu dans notre âme comme d'une participation à la nature divine. Mais le mot participation essaye d'atténuer pour pas qu'on se prenne pour des dieux non plus. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Vous vous rendez compte? Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, Abraham a vu le Messie, hein, a eu une vision de Jésus, hein, du Sauveur. Parce que Abraham, Melchisédek, Noé, ils ont la tradition d'Adam et Ève. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Ève, avait dit à Lucifer? Ta descendance t'écrasera la tête. Donc il va y avoir un homme qui va sauver l'humanité et qui va briser ton empire et qui va briser ta méchanceté. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle vous avez le Caravage, qui était très homosexuel et qui courait derrière tous les garçons de 12-15 ans, hein. Mais à l'époque, si vous voulez, les cardinaux et les évêques étaient très tolérants et ils voulaient être surtout des tableaux. Et lui, il passait sa vie dans des tavernes et il est mort lors d'une bagarre à l'épée, hein. Eh bien, il avait représenté la Vierge Marie, il avait représenté Sainte Anne, la mère de Marie, toute ridée, toute presque morte, comme ça. La Vierge Marie dans sa beauté, et l'enfant Jésus vers 8-10 ans, en équilibre sur le pied de sa mère, les bras en croix, avec ses deux mains tenues par sa maman, et le pied de Marie sur la tête d'un serpent. Oui. Mais j'ai vu c'était à Bruxelles, je crois, une représentation comme ça au-dessus d'une chaire dans une église. On voit la Vierge Marie et l'enfant Jésus qui est devant elle et qui, à travers le pied de sa mère, écrase la tête du serpent. Mais là, c'est un peu plus fort parce que la Vierge Marie a une sorte de lance et traverse en même temps aussi le corps du serpent. Oui. Mais l'enfant Jésus écrase la tête du serpent à travers le pied de sa maman. Avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà. Dieu fait alliance avec Abraham. Dieu a apparu à Abraham, encore une fois, hein, et lui dit, je suis le Seigneur, marche en ma présence et sois parfait. Je serai avec toi et voici le signe de mon alliance. Tous les garçons de ta race seront circoncis 8 jours après la naissance. Comme gage de ma promesse, je donnerai à Sarah un fils que tu appelleras Isaac. Je ferai alliance avec lui et avec sa postérité. Alors, donc on doit encore être circoncis? Donc vous n'allez pas me voir pendant 3 jours, hein. Donc en adulte et circoncis, ok, you, c'est wawa, hein. Donc, non. Non, non, c'était pour séparer le peuple saint, le peuple croyant de la religion adamique, des religions idolâtriques, qui n'étaient pas circoncises. Donc quand le Sauveur est arrivé, eh bien, la circoncision n'était plus utile. C'était être baptisé dans la mort et la résurrection du Christ. Il n'est plus utile d'être circoncis. Je suis bien content, parce qu'imaginez qu'il y a un pape qui dise « Finalement, on s'est trompé pendant 2000 ans ». On va circoncire tous les messieurs. Oh. Bon. Je peux me permettre, je peux plus faire des choses polémiques, je peux plus couper le micro, mais je peux permettre en fait certaines choses quand même. Voilà. La circoncision, signe de l'alliance de Dieu avec Abraham, figurait le baptême qui nous fait les vrais enfants de Dieu. Dieu éprouve Abraham. Alors, Sarah, était stérile, elle avait 80, lui en avait 85 ou 90, dit la promesse. Et à l'époque, même les descendants de Noé, enfin Abraham, Hébert, Sem, sont des Sémites. Et vous avez des peuples qui ne sont pas cananéens, mais sémites, qui sont descendants aussi d'Hébert, et donc de Sem. Vous avez des nomades d'Arabie Saoudite qui sont des sémites. Et donc, ils sont cousins. Et ils sont même plus que cousins parce que Abraham, certains descendent aussi d'Abraham. Vous voyez. Parce qu'il va y avoir une bifurcation avec justement. Ce sont des peuples qui sont cousins. Et là, Abraham se dit, je vais prendre une seconde femme pour accomplir la promesse de Dieu. La femme de seconde catégorie n'est pas la première femme. La première femme, c'est la grande femme. Et alors, dans un film que je présenterai peut-être, je crois que c'est dans cette série-là, de la vie d'Abraham, donc vous avez Sarah, elle est là, assise, et la femme de second rang accouche sur ses genoux. Elle s'assied sur les genoux de la femme de premier rang, parce que tous les enfants sont comme ses enfants, puisque c'est la première. Vous voyez ? Alors avec ce genre de tradition, on peut comprendre pourquoi Abraham a cédé à la polygamie, qui était tolérée, même dans la vraie religion. Pas les sacrifices humains, mais la polygamie et la répudiation. Et il y a le petit Ismaël qui va naître. Mais Dieu dit, non, ça sera de ta femme de premier rang. Et là, vous avez Sarah qui est derrière à 80 ans et qui là dit, elle rit parce qu'elle entend Dieu. Eh bien, tu l'appelleras rire, et il sera une joie pour vous, Isaac. Ça veut dire rire, joie. Et quand il va grandir, vous avez Ismaël, son aîné, qui commence à lui taper dessus. Sarah qui dit, non, ça va pas du tout. La maman, c'était en plus une esclave, pour bien montrer que c'était une femme de second rang. Vous allez me dire, comment dans la vraie religion, du temps d'Abraham, il y avait des esclaves? L'esclavage, c'était une dépendance de serviteurs et de servantes. C'est pas l'esclavage le plus mauvais que l'homme ait inventé, où vous êtes la pleine, totale propriété de la personne, où vous avez droit de vie et de mort sur votre esclave. Le système de l'esclavage était plus, si vous voulez, d'un contrat de travail à vie. Et vous aviez des maîtres, des maîtresses qui étaient extrêmement respectueux de leurs employés, qui était esclave, mais pas au sens le plus péjoratif et le plus et qui a existé aussi dans des systèmes économiques où la personne était et l'esclavage existait au sein des peuples d'Orient, au sein des peuples d'Afrique, au sein des peuples européens. Les Saxons avaient des esclaves. Il y avait un système d'esclavage. Et donc, Sarah dit, non, moi je veux plus voir Ismaël et Agar. Alors, du coup, il la fait partir. Et donc, les musulmans, eux, se revendiquent d'Ismaël et disent, non, c'est Ismaël qui est le plus important et c'est pas Isaac. Mais dans la Bible, et dans la vraie Bible, pas dans la réécriture qu'il y a dans le Coran, qui subtilise dans le sacrifice Ismaël à Isaac, eh bien, en fait, il part dans le désert, il manque de mourir de soif, et vous avez l'archange, je crois que c'est l'archange Gabriel, qui sauve Agar et l'enfant. Et il indique un puits où ils prennent de l'eau, ils sont sauvés. Et l'archange dit, ton fils sera comme un âne sauvage dans le désert. Il mordra, il fera la guerre. Oui. Ben voilà. C'est amusant, c'est biblique, et très ancien. Et là, vous avez Dieu qui se dit, ben, finalement, je suis le Tout-Puissant, hein, par rapport au soleil ou à la déesse mère, Pachamama, ben, je vais aussi demander un sacrifice humain, tiens, je vais voir où il va aller. Et vous avez Saint Paul qui dit, mais Abraham était certain de la vie après la mort, et il était certain que son fils Isaac ressusciterait. Mais quand? Dieu donna un fils à Sarah, on l'appela Isaac. Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, Abraham. Il s'appelait Abraham et Dieu lui a changé son nom en Abraham. Abraham, ça veut dire père, et Abraham, Abba, hein, et Abraham, c'est père d'une multitude. Il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va. Oui, Sacré-Cœur de Jésus. Offre-le en sacrifice sur une montagne que je t'indiquerai. Voilà. C'est le vrai Dieu, c'est le Tout-Puissant. Alors imaginez, hein, voilà. Il accepte parce que c'est le vrai Dieu. Heureusement qu'il ne demande pas ce genre de choses. Et donc pour tous ceux qui m'ont subi déjà depuis 4 ans, hein, vous avez Raymond Devos qui est dans un de ses sketchs, il est là et dit, un soir, Dieu m'a dit, va. Prends ta femme et sacrifie-la. Donc j'étais là, j'avais mis du bois, tout ça, attaché. J'ai levé le couteau. Et là, je sais plus, le sketch, c'est le sacrifice d'Abraham. Bon. Sauf que là, ça s'est vraiment passé. Et qui était symbolisé par Isaac? Ben, c'est Jésus. Et le Père nous a donné son propre fils. Il a sacrifié son propre fils. Il a accepté que ces créatures tuent son fils, quand même. Elle dit, oui, mais avec ce que vous dites, ça voudrait dire que Dieu a sacrifié son fils. C'est lui qui a tué son fils. Parce qu'il aurait pu l'empêcher, cette crucifixion. Bah, non, hein, fondamentalement, c'est nous qui l'avons crucifié. Hein. C'est pas Dieu qui a crucifié Jésus. Hein. C'est pas le Père qui a crucifié le fils. Hein. C'est nous. Hein. Faut pas exagérer. Oui, mais vous nous dites que mystiquement, c'est un peu comme le sacrifice d'Abraham. Donc ça voudrait dire quand même que le Père sacrifie son fils. Il permet que son fils meure pour nous. Et les mérites infinis de sa mort, comme agneau innocent, nous sauvent. Enfin, c'est quand même quasiment un deuxième péché originel. Hein. Et si Dieu nous avait reproché la mort de son fils, on aurait été foutus. Déjà, on avait fait le péché originel, on tue son fils, donc on avait double peine. Je ne sais pas comment on s'en serait sorti. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc le deuxième péché de l'humanité est notre salut. Pour les justes et pour ceux qui se repentent de leur faute. Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'Holocauste. La victime est complètement brûlée. On ne prend pas une partie pour la manger. Et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. C'est le mont Sinaï. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Le troisième jour. Abraham dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusqu'à là-bas, nous ferons nos dévotions et nous reviendrons vers vous. Imaginez, il sera revenu tout seul. Là, les serviteurs ont dit, oh là là, le patron, il faut le respecter, hein. Il a tué son fils quand même. Bon. Abraham prit le bois de l'Holocauste et en chargea son fils Isaac. Lui-même mit en main le feu et le couteau. Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit, mon père, il répondit, oui, mon fils. Eh bien, reprit-il, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, Dieu lui-même pourvoira l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham éleva un autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Et vous avez à nouveau le Caravage qui représente le sacrifice d'Abraham absolument impressionnant. C'est une des plus belles peintures qui existent. Hein. Vous voyez le pauvre Isaac qui est là sur le bois. le vieux Abraham qui est là, et vous avez l'ange qui retient le bras d'Abraham. C'est impressionnant. Mais c'est une scène qui est très souvent représentée. Quand ils furent arrivés, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Dieu l'appela et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier, pris par les cornes dans un buisson. Il l'offrit en holocauste à la place de son fils. L'ange de Dieu appela une seconde fois Abraham et dit « Je jure par moi-même, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. Et tes descendants seront vainqueurs de leurs ennemis. Par ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre en retour de ton obéissance. » Alors c'est quoi ? Qui sera un grand chef de guerre et qui va avoir de nombreux pays ? Non, c'est le nombre d'âmes qui vont se sauver et qui vont vaincre le péché et les tentations. Car l'ennemi, c'est ça. Abraham revint vers ses serviteurs et ils se mirent en route ensemble pour le retour. Le patriarche Abraham connut une vieillesse heureuse. Après sa mort, Dieu bénit son fils Isaac, qui mena une vie irréprochable. Dieu parla plusieurs fois à Abraham, c'est à cause de sa grande foi et de son obéissance à Dieu qu'il mérita d'être appelé le père des croyants. Le Seigneur lui-même se nomma le Dieu d'Abraham. C'est magnifique, hein? Quel honneur rendu à cet homme, hein? Ce devait être un drôle de bonhomme, hein? Hein, plus saint que lui, allez, Joseph, parce que Dieu va lui confier son fils. Mais Abraham, c'était un homme. Hein. Quel grand sacrifice Dieu demanda-t-il à Abraham, son fils ? Abraham montra sa grande foi dans trois circonstances. Lesquelles ? À chaque fois qu'il a fondé un autel. Comment Isaac fait-il penser à Jésus ? Ben, c'est évident. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, sa postérité sera puissante sur la terre. Les héritiers de la promesse, Dieu renouvelle la promesse à Isaac.